Écris donc, premièrement, ce que tu as vu. Et nous avons vu que ça correspondait à la vision de Jésus-Christ au chapitre 1. Jésus continuait, deuxièmement, ce qui est. Et nous avons vu que ça correspondait à l'âge de l'Église. Vous vous souvenez, on a dit que c'était la grande parenthèse entre la 69e semaine et la 70e semaine, c'est l'âge de l'Église. Et puis finalement, Jésus dit, et ce qui va se produire ensuite, ou textuellement, ce qui va se produire après ces choses. Et là, ça décrit les choses qui vont se produire à partir du chapitre 4. Et nous avons vu que donc ces événements futurs, Jean les voit tels qu'ils vont se passer. Encore une fois, un rappel, nous sommes pris dans un monde à quatre dimensions, avec le temps et l'espace, bien sûr. Nous pourrions dire que nous voyons les images du film une à une sur l'écran. Mais Dieu, lui, voit toute la bobine déroulée. Et il permet un peu à Jean de voir la bobine de film. Nous avons vu qu'au chapitre 4 et 5, il y avait la vision des lieux célestes, de la salle du trône de Dieu. Nous avons vu que les êtres célestes et l'Église qui avaient été enlevés. Adorer Dieu et l'agneau de Dieu. Nous avons expliqué aussi que ce livre que Dieu tenait à la main représentait comme le titre de propriété de la terre. Nous avons expliqué que Dieu avait créé le monde, l'univers. Il l'avait confié à l'homme, mais que l'homme, en devenant l'esclave de Satan, parce qu'il lui avait obéi, à ce moment-là, l'homme avait remis la terre à Satan. Jésus a gagné la victoire à la croix. Mais il doit revenir prendre possession de la terre. C'est son second retour sur la terre. Et c'est très important de comprendre ça parce que lorsqu'on voit les choses qui se passent dans le monde, les gens disent, mais Dieu n'existe pas. Ou alors Dieu existe, mais il n'a pas d'amour pour les hommes. Ou peut-être pire encore, il existe, il a de l'amour, mais il est impuissant. En fait, non, Dieu est tout puissant et un jour va venir, nous pensons très proche, il va reprendre les choses en main. L'apôtre Jean pleure au chapitre 5 parce qu'il a peur que personne ne soit trouvé digne d'ouvrir, de prendre ce titre de possession de la terre, ce livre. Mais l'agneau de Dieu, lui, peut prendre. ce livre et d'ouvrir les sceaux. Et nous avons commencé à voir l'ouverture des premiers sceaux. Il y a 7 sceaux sur ce document qui était en fait un rouleau de parchemin roulé sur lui-même. Et cela correspond à l'ouverture sur terre de la période dite de la Grande Tribulation. Les sceaux, sur l'ouverture. Nous avons assisté à l'ouverture des 4 premiers sceaux. Ce qui correspond à ce qu'on appelle des fois les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Quatre chevaux, un cheval blanc, un cheval rouge, un cheval noir, un cheval verdâtre.
Four horses, a red horse,
white.
A white horse, red. A red horse, a black horse, and an ashen gray colored horse.
Green, yeah. Nous avons vu en fait que le premier semblait correspondre peut-être au Christ sur un cheval blanc.
And we saw that the first seemed to resemble Christ, the white horse.
Mais nous savons qu'il s'agit là de l'Antichrist. La mystification, le mensonge personnifié. Tout de suite derrière arrive la guerre, représentée par le cheval rouge. Le cheval noir, c'est la famine, la pénurie, l'inflation, le marché noir. Et finalement, le cheval verdâtre et plus exact, c'est la mort. Et nous allons lire à partir du verset 9 du chapitre 6. Je lis dans la version second à la colombe, à partir du verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce soit au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Un premier groupe dans ce récit, qui sont ces saints, ces croyants? Représenteraient-ils l'Église? Non, parce que vous souvenez, Jésus, nous avons vu déjà plusieurs versets qui nous expliquent que l'Église a été déjà enlevée par le Seigneur, qu'elle est devant le trône de Dieu représentée par les 24 anciens. Nous avons l'assurance que le Seigneur va nous épargner l'heure de l'épreuve. Et ces âmes, ces saints, eux, sont passés par l'épreuve. Ils ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Jésus nous a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, le porte du séjour des morts plus exactement, ne prévaudront pas contre elle. Et là, ce passage nous rappelle, nous correspond à un verset dans Daniel 7. Le verset 21, où il est question de l'Antichrist qui est appelé la corne, un symbole de puissance.
Where it makes reference to the Antichrist, who is a horn or a symbol symbolized by a horn, power.
Et là, il est dit, je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et en fait, si on réfléchit bien, on conçoit très facilement que après l'enlèvement de l'Église, ceux qui auront entendu parler de Christ de leur vivant, peut-être vos parents non-croyants, vos voisins qui partaient faire du vélo le dimanche matin alors que vous alliez à l'église, lorsque d'un seul coup ils vont voir que l'église est partie, ils vont se poser des questions. Ils vont peut-être ouvrir la Bible que vous leur aviez offerte. Il va y avoir un grand réveil sur la terre. Et ma conviction, c'est que les âmes de ces saints, ce sont les personnes qui sont converties pendant la grande tribulation. Ce n'est pas le meilleur moment pour être sauvé, parce qu'il faudra endurer la persécution de l'Antéchrist et de ses troupes. Nous allons retrouver ce même groupe un peu plus loin au chapitre 7, nous en parlerons davantage. Continuons avec l'ouverture du sixième sceau, verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ?» Les événements, on dirait, apocalyptiques. Encore une fois, le mot apocalypse signifie simplement révélation. Unveiling. Mais à cause de ces événements, le mot a pris le caractère d'événements cataclysmiques horribles. Et ces catastrophes planétaires vont aller en s'intensifiant jusqu'au retour du Seigneur. Dans Matthieu 24, Jésus disait au verset 29, aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire.
Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.
L'homme dispose aujourd'hui de la puissance nucléaire qui pourrait provoquer ce genre de catastrophe.
Man today has nuclear power, a power that could be catastrophic.
Dieu pourrait ainsi utiliser la folie meurtrière et guerrière des hommes.
God could use the foolishness of men.
Il pourrait aussi utiliser un météorite géant qui frapperait la Terre.
He could also use a giant meteor to strike the Earth.
Qui pourrait même aller jusqu'à renverser l'axe de rotation de la Terre.
He could even change the axis of the Earth.
Provoquer des changements climatiques catastrophiques. Ça paraît peut-être un peu éloigné, mais certains scientifiques pensent que ça a été déjà le cas sur la Terre. Il y a déjà des cratères sur la Terre de plusieurs centaines de kilomètres qu'on explique par l'impact de météorites. En Sibérie, on a même retrouvé des mammouths congelés.
In Siberia, they've even found frozen mammoths.
C'est pas le nom d'une chaîne de produits réfrigérés.
It's not the name of a chain in France that's called mammoth.
Mais dans ces mammouths, les scientifiques ont retrouvé des restes végétaux. Non complètement digérés, de plantes qui poussent sous les tropiques. Alors ce n'est pas à nous de faire des conjectures, mais on peut imaginer, pour réaliser que c'est pas si éloigné que ça pourrait penser. J'aimerais que rapidement faire un parallèle avec le discours que Jésus a fait à ses apôtres sur la fin des temps dans Matthieu 24. On va voir un parallèle étonnant. Matthieu 24:3, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent: dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Versets 4 et 5, il y aura des séductions. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ça, bien sûr, ça correspond au cheval blanc de l'Apocalypse 6, 1 et 2. À l'Antichrist et ses mensonges. Versets 6 et 7. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et ça, bien sûr, c'est le cheval roux ou rouge qui représente la guerre dans l'Apocalypse 6.
And that, of course, corresponds with the red horse in Apocalypse 6:4 that represents war.
Nous avons parlé des famines à la fin du verset 7. Ça correspond au cheval noir.
And then at the end of verse 7, it makes reference to famine. And this would relate to the black horse.
et les tremblements de terre. Et verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est l'arrivée du cheval vert. Verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Qui correspond aux martyrs que nous avons vus sous l'autel de l'Apocalypse 6. Versets 10 et 13, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça correspond bien à ce chaos mondial dont nous avons parlé dans l'Apocalypse 6, versets 9 à 11. 12 à 17, pardon. Au verset 29 de Matthieu 24, on lit, aussitôt... Oui, pardon. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et si je vous laisserai lire à partir du verset 32, plus tard, jusqu'au verset 26 du chapitre suivant, chapitre 26, on voit le jugement divin. Si nous revenons maintenant au chapitre 6, à la fin du chapitre 6, nous voyons que les hommes préfèrent continuer dans leur rébellion contre Dieu plutôt que de se soumettre. Et c'est la terrible colère de l'agneau. C'est presque une contradiction dans les termes. Le mot agneau, c'est un petit agneau. Parler de la terrible colère de cet agneau, ça paraît surprenant. Souvent, on entend des gens dire « Oui, Jésus, je l'aime bien. » Le petit Jésus dans la crèche, entre guillemets. Mais alors, le Dieu sanguinaire et cruel et coléreux de l'Ancien Testament, alors lui, hein, il a un problème. Il faut leur montrer ces passages, ces versets. Parce que le même Jésus est aussi un Dieu très saint. Et ce n'est pas une colère incontrôlée, mais c'est une colère contre le péché et ceux qui s'y adonnent et qui refusent de l'abandonner. Sans cette colère divine, il ne peut pas y avoir cette sainteté de Dieu. Elle fait partie de sa perfection.
It's a part of his perfection.
La sainteté ne peut pas habiter avec le péché.
Holiness cannot cohabit with sin.
Il y a bien des passages dans la Bible, en particulier le prophète Nahum, on voit quand la colère de Dieu se déchaîne, elle est terrible.
There are many passages in the Bible, specifically of the prophet Nahum, that describe the wrath of God when it's unleashed.
Dans Hébreux, il est dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
And in the book of Hebrews, it says it's a terrifying thing to fall into the hands of a just God, a wrathful God.
Et la question, c'est le dernier mot de ce passage, c'est qui pourrait subsister?
And the question, the last words in this passage are, who is able to stand?
Paul nous répond dans Romains 5, 9.
And Paul gives us the answer to that in Romans 5,
verse 9. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons-nous sauvés par lui de la colère? Êtes-vous prêts?
Are you ready?
Apocalypse 7.
So we're looking now at Revelation 7.
Verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Certains utilisent ce verset pour dire que la Bible n'est pas digne de foi. Parce qu'il est dit en quelque sorte ici que la terre est plate. Il y a quatre coins, ça donne l'image d'un carré ou d'un rectangle. Bien sûr, c'est ridicule parce qu'il s'agit d'une figure de style.
But of course, this is a figure of speech.
En fait, le mot coin, c'est le mot que nous utilisons pour le mot angle. C'est le mot gonio. Gonio. Radiogoniométrie. Vous savez ce que c'est? C'est lorsque les Allemands essayaient de repérer les postes émetteurs avec leurs antennes. Ils faisaient des repérages d'angle. C'est le mot qu'on utilise pour désigner le genou. C'est le même mot. Genou, l'angle. Et bien sûr qu'il y a quatre directions sur la Terre. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Si les hommes, même les hommes d'église, avaient lu la Bible, ils n'auraient pas eu besoin d'attendre Galilée pour savoir que la Terre était ronde. Le prophète Ésaïe disait que Dieu habite au-dessus du cercle de la Terre. Job disait que la Terre était suspendue dans le néant. Ne laissez jamais les personnes vous faire croire que la Bible n'est pas la vérité, qu'elle n'est pas scientifique. La plupart du temps, lorsqu'il y a des divergences avec la science, c'est toujours la Bible qui finit par avoir raison. Je vis un autre ange, verset 2, qui montait du côté du soleil, c'est-à-dire de l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les anges sont prêts à déchaîner les tornades, des vents sur la terre, et il y a un ange qui leur dit stop, attendez.
The angels are ready to unleash a tornado of storms on the earth, and someone stops them.
Nous devons marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.
We need to mark the servants with a seal for God on his forehead.
Qu'est-ce qu'un sceau? What is a seal? À l'époque, un sceau, c'était une empreinte faite dans de la cire ou de l'argile. Or clay, pour marquer l'identité, la propriété et la protection. Un peu plus loin, Apocalypse 14:1. Il nous est dit que ce sceau c'était le nom du Père écrit sur leur front. Et c'était un sceau qui allait les protéger. Apocalypse 9:4. Les catastrophes ne devaient pas toucher ceux qui avaient le sceau de Dieu sur leur front. Et est-ce que vous savez que si vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous avez un sceau sur vous? C'est pas le poisson autocollant que vous avez mis peut-être. Où il est dit en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés, le mot sceau, du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
In whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession.
Et plus loin dans le même livre, Ephésiens 4:30.
And a little further in the same book of Ephesians, chapter 4, verse 30.
Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie de combat. Mais nous avons l'assurance que nous allons vaincre. Parce que nous avons le sceau du Saint-Esprit sur nos vies. Sa puissance pour nous aider, nous protéger. Nous identifier comme les enfants de Dieu.
And we are identified by that as children of God.
Vous vous souvenez, lors du déluge, Noé et sa famille avaient été, pour ainsi dire, scellés dans l'arche de Noé, protégés. La porte était refermée, on ne pouvait plus l'ouvrir.
You may remember at the time of the flood, Noah and his children were, in a sense, sealed into the ark. They were protected.
Et nous avons déjà parlé du sang de l'agneau que les Juifs devaient mettre sur leur maison pour être protégés comme pour un sceau. Ça va, tout le monde suit? Et personne. Nous allons voir maintenant deux groupes, versets 4 et 8, puis versets 9 à 17. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. de la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. C'est un passage intéressant. Dans le sens que certains groupes ont pris ce passage pour dire que nous sommes les
144 000.
Ça a été le cas des témoins de Jéhovah, l'église de Dieu du monde entier de Herbert Armstrong,
Herbert Armstrong,
qui disait même si vous payez deux ou trois fois votre dîme, alors vous serez dans les 144 000. Et nous vous enverrons un télégramme lorsqu'il sera temps d'aller se réfugier dans le désert. Alors c'est vrai que certains ont essayé de spiritualiser le mot Israël. Mais on peut alors à ce moment-là spiritualiser le nombre 144 000. Peut-être qu'en fait ça veut dire 144 millions. Et peut-être qu'il y a encore plein de place pour les témoins de Jéhovah au ciel. Et en fait, j'aime bien la question qui dit « Si Dieu n'a pas voulu dire ce qu'il a dit, pourquoi n'a-t-il pas dit ce qu'il voulait dire ?» Pray tell, if God didn't mean what he said, why didn't he say what he meant? On peut le répéter très vite, c'est un peu embrouillant. De quoi est-il question?
So, what is the point here?
Des tribus des fils d'Israël.
The tribes of the sons of Israel.
Il est question ici d'Israël.
So, it's talking about Israel.
Dieu, nous l'avons vu en étudiant le livre de Romains, n'a pas fini avec son peuple, Israël.
When you study the book of Romans, you saw that God is not finished with the children of Israel.
Nous avons vu qu'il y avait cette merveilleuse prophétie dans Daniel 9, des 70 semaines. Nous avons vu que ça correspondait en fait à 70 périodes de 7 ans. Nous avons expliqué qu'au bout de la 69e semaine, le chronomètre de la prophétie avait été comme arrêté et c'était l'âge de l'Église. Et à l'enlèvement d'Église, c'est comme si Dieu redémarre son chronomètre. Et pour être sûr qu'on ne va pas spiritualiser à tort et à travers, Dieu nous donne ici le détail. Tribu par tribu.
Tribe by tribe.
On pourrait entrer dans les détails, mais là j'aimerais passer au verset 9.
We could go into more detail, but Pierre would like to go on with verse 9.
Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit devant son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus soin, plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau quitte au milieu du trône et fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Un autre groupe, une multitude innombrable. Est-ce l'Église? Non, je pense que ce sont encore une fois les rachetés de la grande tribulation. Notons bien que l'apôtre Jean ne reconnaît personne. On peut penser qu'il reconnaîtrait l'Église si c'était elle. Nous avons vu que l'Église, elle, nous l'avions vu au chapitre 4 et 5. Nous avons vu au chapitre 3, verset 10, que l'Église était gardée de l'heure de la tentation. Ici, c'est racheté, sortent de la grande tribulation. L'Église portait des vêtements blancs, verset 4 du chapitre 4. Ici, il s'agit de robes blanches, verset 13. Nous avons vu que l'Église, les rachetés dans l'Ancienne Alliance, étaient assis sur des trônes, autour du trône. Ici, les gens dont il est question sont debout devant le trône. L'Église était couronnée. Les rachetés dont il est question ici ne sont pas couronnés. L'Église avait des harpes et des coupes dans leurs mains, verset 8 du chapitre 5. Ici, les rachetés ont des palmes à la main en signe de triomphe de Dieu. Verset 9 du chapitre 5 nous montrait que l'Église chantait un cantique nouveau. Ici, au verset 10, il est question de ces gens qui crient d'une voix forte. Ils ne chantent pas, ils crient. L'Église, il est dit, a été fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu qui règne sur la terre. Et ici, au verset 15, il est dit que ce sont des gens qui servent le Seigneur Dieu nuit et jour, ce sont des serviteurs. La louange. Nous avons donc fini de comparer l'Église et ce groupe, mais notons que leur louange, elle reconnaît des attributs de Dieu. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ça peut rester une formule religieuse. Mais ça doit devenir une réalité dans nos vies. C'est vrai qu'on peut s'enthousiasmer pour une équipe de foot. Mais de grâce, à qui appartient la gloire, la louange?
but to give praise to the one who has all power.
Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Les versets 16 et 17 sont des réminiscences, sont des versets en fait du prophète Ésaïe.
And verses 16 and 17 are actually taken a prophecy in Isaiah.
Qui nous promettent de choses merveilleuses.
And they promise us incredible things.
Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux.
God will wipe every tear from their eyes.
Passage grandiose, nous avons peu de temps pour développer plus en détail.
This is a really large piece of scripture and we don't really have time to go into great detail with it.
J'aimerais simplement vous faire remarquer que face à ces jugements de Dieu, nous en voyons certains qui viennent à lui et d'autres qui au contraire se rebellent et qui appellent la mort sur eux-mêmes. Et je lisais un auteur américain qui disait qu'en fait, l'effet du jugement de Dieu sur les hommes, il est comparable à l'effet du soleil sur des matériaux différents. Et c'est vrai que c'est le même soleil qui va faire fondre la cire, mais qui va durcir l'argile. Et nous savons tous que nous avons à faire face à des épreuves. Et devant les épreuves, il y a deux réactions possibles. On peut devenir amer envers Dieu, endurcir notre cœur, le rejeter, ou on peut se tourner vers lui davantage. Il veut être avec nous dans ces épreuves. Il veut que notre cœur se fonde à la lumière, à la chaleur de son amour. Une autre remarque. Vous dites peut-être, « Ah, mais il y en a qui vont être sauvés pendant la grande tribulation. » Je vais continuer à vivre comme je veux ici-bas. Et puis, quand le moment sera venu, pendant la grande tribulation, alors là, je viendrai au Seigneur. Et la bonne remarque, c'est de dire, comme quelqu'un l'a fait, comment penser qu'on aura le courage de mourir pour lui pendant la grande tribulation? Si nous n'avons pas le courage de vivre pour lui en ce moment. Alors qu'en ce moment, nous avons l'appui et l'aide. De l'Esprit Saint. De l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. De tous les chrétiens qui veulent vous entourer, vous soutenir, vous aider. Donc n'allez pas faire des plans, on dirait des plans sur la comète, en disant que j'ai tout mon temps. Maintenant est le moment du salut. Et encore une fois, lorsque les épreuves viennent dans votre vie, dans ma vie, n'endurcissons pas nos cœurs. Sommes-nous prêts? Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Prions. Seigneur, c'est vrai que la description, la lecture de ces passages peuvent nous remplir de terreur. Nous pouvons soit bien sûr les ignorer, ne pas prêter attention, ou alors écouter ce que tu nous promets, Seigneur. Et Seigneur, cette crainte que tu veux inspirer dans nos cœurs, ta parole nous dit qu'elle est le début de la sagesse. Seigneur, c'est vrai que des fois nous sommes si rebelles que tu dois inspirer la peur pour que nous pensions à ces choses. Seigneur, ma prière, c'est que peut-être ceux qui n'ont pas encore couru vers toi, réalisent que ces choses ne sont pas si fantastiques, au sens de science-fiction, mais qu'elles sont une réalité toute proche. Nous voyons les guerres dans le monde, le Kosovo. Nous ne connaissons pas le temps exact de l'enlèvement, de ton retour, Seigneur. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu dis que nous pouvons être prêts pour ces événements. Que nous pouvons être scellés par ton Esprit Saint. Seigneur, nous prions que le plus grand nombre soit scellé par le sang de l'agneau. Que le plus grand nombre vienne à Jésus-Christ, dès maintenant. Et si parmi vous, il y en a qui aimeraient venir et recevoir le Seigneur Jésus-Christ, sachez que, comme il le dit dans l'Apocalypse, c'est lui-même qui frappe à la porte de votre cœur. Il est dit que si nous lui ouvrons la porte, alors il viendra dîner, c'est-à-dire vivre avec nous. Et si vous voulez aujourd'hui lui ouvrir la porte de votre cœur, je vous demanderai de prier en silence cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Père, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai vécu ma vie sans me soucier de ta volonté. Seigneur, je veux changer de direction. Je veux m'éloigner de mes péchés et venir à toi. Je veux être scellé de ton Esprit Saint qui va m'aider à vivre la vie que tu veux que je mène. Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Amen. Et si vous avez prié cette prière, encore une fois, je vous demanderai de le montrer en levant votre main.
this prayer, if you'd like you to just raise your hand.
C'est une prière que vous pouvez faire vous-même.
It's a prayer that you can pray on your own.
Mais les choses deviennent très urgentes.
But things are becoming very urgent.
Maintenant est le moment du salut.
Today is the day of salvation.
Si vous avez envie, mais il y a une résistance, sachez que cette résistance, elle n'est pas de Dieu, ni de vous, elle est de l'ennemi qui ne voudrait pas que vous soyez protégé. Seigneur, tu connais les cœurs et nous te remettons toutes les âmes ici ce matin. Que ton Esprit Saint leur parle pour les convaincre de justice, de péché, de jugement. Afin que nous soyons tous prêts, Seigneur, pour l'heure de ton retour. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine dans la paix et dans la joie du Seigneur. Et n'oublie pas, dimanche prochain, pique-nique à la campagne, si Dieu le veut. Amen. Amen. Si je vous signale aussi que nous enregistrons ces messages et que vous pouvez les commander à l'avance, si vous le souhaitez. Voilà, merci. Sachez que lorsque Jésus frappe à la porte de votre cœur, il y a une résistance de la part de l'ennemi qui ne veut pas que vous fassiez cette démarche. Nous verrons qu'il est, le destructeur. Il vient pour détruire, pour tuer. Une autre chose importante, c'est de confesser maintenant nos péchés dans le silence à Dieu. Et nous allons prendre une minute pour prier personnellement. Et aussi, s'il y a des frères ou des sœurs à qui vous devez demander pardon, maintenant est le moment aussi de le faire. N'ayez pas de restreinte.
And if there's a brother or sister that you need to ask forgiveness from, now is the time. Don't restrain yourself.
Merci Seigneur pour ton pardon.
Thank you, Lord, for your forgiveness.
Si Tonio et Mike peuvent prendre les éléments, je vais vous demander de les retenir.
Mike and Tonio will pass the elements out, and we ask everyone to just keep them.
L'Évangile nous dit que le soir où il allait être trahi, Jésus réunit ses disciples pour célébrer la Pâque avec eux. Qu'il prit le pain et qu'après avoir rendu grâce, il le rompit. Et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prenons ce pain. Puis il dit, de même, il prit la coupe, après le repas, il la leur donna. En disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Qui est répandue pour vous. Prenons la coupe. Merci Seigneur.
Thank you, Lord.
J'ai demandé à un groupe de louanges de chanter deux chants.
To end with a couple of songs.
Je t'aime. dans tes yeux, me dise combien. Me dis de la honte que tu as tenu pour me donner. Et quand mes cieux passeront, et ma douce épreuve resteront, et pour toujours
cœur, dans votre vie. En nom de Jésus, nous vous bénissons. Amen.